Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci puisqu'elle est puissante pour transformer des vies, pour nous transformer. Parfois, Seigneur, elle peut être difficile à comprendre et difficile à recevoir. Aide-nous donc ce matin à bien comprendre ce que tu nous dis et travaille en nous, dans nos cœurs, pour nous transformer à ton image. Amen. Est-ce que nous pouvons être sûrs de notre salut? Est-ce qu'on peut avoir confiance que quoi qu'il arrive, si on se tourne vers Dieu et on lui dit « Seigneur, pardon, fais-moi grâce », alors Dieu nous recevra, alors Dieu nous sera favorable? Est-ce qu'on peut avoir cette confiance-là, cette assurance-là? Dans les moments de ma vie où j'ai l'impression d'être loin de Dieu, où je me sens peut-être pas très chrétien, est-ce que je peux avoir confiance que Dieu, à ce moment-là, il m'est favorable? Dans les moments de ma vie où je doute que Dieu est pour moi, je doute que Dieu puisse m'aimer, je me sens particulièrement pécheur, je me sens particulièrement rebelle contre Dieu, est-ce que là je peux avoir confiance que Dieu m'est favorable? Ça, c'est la question à laquelle on va répondre ensemble ce matin au travers du passage qu'on vient de lire. Vous avez peut-être déjà senti dans ce passage, en le lisant, que la réponse n'est pas si facile que ça. On aurait envie de dire « Non, ce ne sera jamais trop tard, non, tu pourras toujours te tourner vers Dieu et t'attendre à son pardon. » Mais en fait, dans le passage qu'on vient de lire, Jérémie il dit « Non, attention, il peut être trop tard, il peut être trop tard. » On est, vous le savez si vous êtes là avec nous depuis quelques semaines, dans une série, on fait un survol du livre de Jérémie. Jérémie, c'est un prophète qui a vécu à Jérusalem, donc en Israël, il y a 2600 ans, et il a vécu pendant une grande période de crise. D'abord pendant une période où on avait peur d'une invasion étrangère, puis pendant une période où l'Empire babylonien, un empire voisin, a envahi le pays, a détruit Jérusalem, et puis enfin Jérémie, il a vécu le temps qu'on appelle de l'exil, où Israël était emmené en exil dans l'Empire babylonien. C'était un temps de crise. Et le message de Jérémie, le message du livre de Jérémie, on l'a vu quand on a vu le premier chapitre avec Steve il y a quelques semaines. Le message, c'est que Jérémie va arracher pour replanter. Jérémie 1, verset 10, Dieu dit à Jérémie, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, et pour que tu plantes et tu bâtisses. » La mission de Jérémie, c'est d'enlever les mauvaises herbes pour laisser place aux bonnes herbes. Et donc, dans toute la première partie du livre de Jérémie qu'on est en train de voir ensemble, on parle de ces mauvaises herbes. Jérémie, il enlève petit à petit toutes les choses dans lesquelles le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, pense trouver sa sécurité. Toutes ces fausses sources de confiance qui leur font dire « c'est bon, on a ce truc, Dieu ne va pas nous juger ». C'est bon, on a le temple, on a l'alliance, on a le roi, le descendant de David. Dieu ne va pas nous juger. Mais Jérémie dit, non, 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 rien de tout ça ne peut vous protéger de la colère de Dieu. Et donc, notre défi à nous, en tant que lecteurs du livre de Jérémie, en regardant un passage en particulier, c'est de trouver la mauvaise herbe du jour. C'est quoi le truc que Jérémie est en train d'arracher ici, le truc auquel Israël fait confiance, mais qui en réalité ne peut pas les protéger du jugement de Dieu? Et donc, ce qu'on va voir ensemble dans un instant, c'est que la fausse source de confiance dans ce texte, c'est l'office prophétique. C'est l'idée que des prophètes, des vrais prophètes comme des faux prophètes, ils pourraient permettre le salut du peuple. Ils pourraient permettre au peuple d'Israël d'échapper au jugement de Dieu. Vous avez normalement dans votre feuillet de culte un QR code, sur la troisième page, un QR code qui vous donne accès au texte biblique. Ce serait utile de l'avoir dans une main, puisque on pense que quand on prêche, c'est Dieu qui parle, mais ce n'est pas moi qui parle à la place de Dieu, c'est Dieu qui parle par sa parole, et donc c'est utile de l'avoir ouverte devant nous. Vous trouverez aussi dans le feuillet, sur la feuille volante au milieu, un plan de ce que je vais dire, un plan de la prédication, et enfin sur la page avec le QR code, vous trouverez un plan du texte qu'on a lu tout à l'heure. Un petit tableau récapitulatif qui nous donne la structure du passage, en gros qui nous dit qui parle quand, à qui. Avec ces choses, on va être bien équipés pour regarder ce texte ensemble. Donc vous verrez sur le plan de la prédication, première chose à voir ensemble, c'est le contexte. On a vu le contexte du livre de Jérémie dans son ensemble, mais c'est quoi le contexte de notre passage? C'est quoi la crise qui donne lieu au passage qu'on vient de lire? chapitre 14, verset 1, parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie à l'occasion de la sécheresse, ou peut-être même plutôt des sécheresses au pluriel. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Une sécheresse est en train de s'abattre sur Israël, sur le peuple de Juda. Et on nous l'a décrit de manière assez dramatique au verset suivant. Juda est dans le deuil, les gens sont en train de mourir, les villes sont épuisées, les cris de Jérusalem s'élèvent, les puissants, ils envoient les petits chercher de l'eau, ceux-ci vont à la citerne, mais ils ne trouvent pas d'eau, ils retournent les cruches vides, la terre est commencée à être crevassée, il n'y a pas de pluie dans le pays, même la biche dans la campagne a soif, et les ânes sont tellement assoiffés qu'ils commencent à aspirer l'air comme des chacals. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Tout le monde a soif. Le riche a soif, le pauvre a soif, les laboureurs, ils n'ont pas d'eau pour labourer, et même les animaux, même le bétail, sont en train de mourir de soif. C'est une situation dramatique. Et puis on répète, pas d'eau, pas de pluie, pas de verdure, pas d'herbe. On sait tous à quel point la vie, c'est fragile quand on manque d'eau. On a besoin d'eau pour survivre. On peut vivre, vous savez, plus ou moins une quarantaine de jours sans manger, mais seulement 3 jours sans boire. Mais cette sécheresse dans ce texte, ce n'est pas une sécheresse comme les autres. Ce n'est pas un simple désastre naturel. Pourquoi? Puisqu'Israël n'était pas un simple peuple. Israël, à l'époque, c'était le peuple de Dieu, le peuple qui avait fait alliance avec Dieu, le peuple qui vivait à cette époque-là une relation privilégiée avec Dieu. Mais cette relation, elle venait avec des bénédictions et des malédictions. Bénédiction en cas d'obéissance, malédiction en cas de désobéissance. Et parmi ces malédictions-là, il y avait que la terre promise, la terre où ils habitaient, se retournerait contre eux s'ils désobéissaient à l'Éternel. La terre où la Bible nous dit « coule le lait et le miel », la terre parfaite pour cultiver, elle cesserait de l'être si Israël était rebelle contre son Dieu. Et en plus de ça, fondamentalement, cette sécheresse, elle est là pour faire prendre conscience au peuple d'une autre sécheresse, leur sécheresse spirituelle. Ça veut dire que le peuple de Dieu, à ce moment-là, n'était plus animé par une vraie foi, par une vraie connaissance de l'Éternel, son Dieu. Cette sécheresse, c'est là pour les avertir. C'est là pour qu'ils se rendent compte du problème qu'ils ont. Imaginez, vous vous promenez cet après-midi dans le parc de Woluwe et vous cueillez une fleur. Vous la ramenez chez vous, vous la mettez dans un vase sur votre table à manger et pendant 1 ou 2 jours, tout va bien. Elle a l'air en parfaite santé. Elle a l'air vivante. Mais la réalité, c'est qu'au moment précis où la tige a été coupée, la mort, elle est devenue inévitable. La sécheresse dans Jérémie 14, c'est Dieu qui montre à Israël le sécateur. Leur sécheresse spirituelle, pardon, la sécheresse visible, c'est le symptôme de la sécheresse intérieure. Le symptôme du fait qu'ils se sont coupés du Dieu vivant. Ils sont une fleur coupée, pour l'instant ils ont l'air plus ou moins vivants, mais tôt ou tard la réalité va les rattraper. Mais avant que nous on se dise que ça concerne un peuple qui a vécu loin de nous il y a très longtemps, il faut qu'on se rende compte que nous, on n'est pas si différents de ça. On peut voir ça en replaçant cette histoire dans la grande histoire de la Bible. Au tout début, Dieu a créé un monde bon, mais l'humanité s'est rebellée contre Dieu. Et à ce moment-là, Dieu a dit à l'humanité pécheresse, Genèse 3, verset 17, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. » La conséquence de la rébellion humaine en général, et pas seulement d'Israël, c'est qu'il y a des gens qui meurent de faim, des gens qui meurent de soif. Et puis quand on arrive à l'autre bout de la Bible, le tout dernier livre, l'Apocalypse, ce livre nous dit qu'il y a des désastres naturels, des sécheresses, des famines dans ce monde, et c'est les signes avant-coureurs du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu sur toute l'humanité, quand lui reviendra pour juger les vivants et les morts. Et donc, quand notre passage nous montre Israël, qui subit déjà ces signes avant-coureurs du jugement de Dieu sur Israël, ça doit nous faire penser à nous, à l'humanité, à ces signes avant-coureurs, aujourd'hui, du jugement de Dieu sur nous tous. On devrait prêter attention à ce texte, puisque finalement, notre situation en tant qu'être humain, rebelle contre Dieu, pécheur, c'est pas si différent que ça. Et donc ça nous amène à notre premier point. Sur le feuillet, vous voyez, premier point, les faux prophètes ne vont pas faire l'affaire. Face à la sécheresse spirituelle du peuple, quelle solution ? On va voir la solution tout à l'heure. Si vous avez vu sur le plan, la réponse, c'est Jésus. C'est toujours Jésus la réponse. Mais d'abord, avant d'en arriver là, le peuple a sa propre idée de solution. Ils ont des prophètes. Et grâce à ces prophètes, se disent-ils, tout va bien se passer. Si vous regardez avec moi le tableau ici avec la structure du passage, vous voyez que notre passage il s'organise un petit peu en deux cycles parallèles. Deux cycles parallèles à chaque fois, il y a jugement, prière de Jérémie, refus de Dieu. Mais au milieu, il y a un truc que j'ai appelé le pivot central du texte, chapitre 14, des versets 13 à 16, et c'est ça qui va nous intéresser pour ce premier point. C'est ce passage qui va nous parler de ces fameux faux prophètes. Je lis à partir du verset 13. Je, c'est-à-dire Jérémie, répondit « Ah, Seigneur éternel, voici que les prophètes leur disent « Vous ne verrez pas l'épée, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai en ce lieu même une paix véritable. » L'Éternel me dit « C'est la fausseté que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions fausses, de la divination et de l'idolâtrie, des tromperies de leur cœur qui prophétisent. » C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés et qui disent il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée et par la famine, et ceux du peuple à qui ils prophétisent seront jetés dans les rues de Jérusalem à cause de la famine et de l'épée. La solution du peuple face au jugement de Dieu, c'est d'écouter ces faux prophètes, ceux qui disent il n'y aura pas l'épée, il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas la famine, il y aura plein de choses à manger. Et puis, s'imaginant parler pour Dieu, ils disent « Je vous donnerai dans ce lieu même une paix véritable. » C'est les prophètes qui disent « Ça va, ça va. » Un prophète, on le sait, c'est quelqu'un qui est censé parler au peuple de la part de Dieu. Mais ces gens-là, verset 14, ils ne parlent pas de la part de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, ce n'est pas Dieu qui leur a parlé, mais en fait, c'est à partir de la tromperie de leur cœur qu'ils prophétisent. C'est des charlatans, c'est des menteurs. Et donc, sans surprise, ces faux prophètes ne vont rien faire pour protéger Israël du jugement qui arrive. Ils disent « ça va bien se passer ». Mais en réalité, qu'est-ce qui va arriver? Verset 15, ces faux prophètes eux-mêmes vont mourir par l'épée et par la famine. Et le peuple qui s'est confié en eux? Verset 16, l'épée, la famine. Le message de Jérémie, on l'a dit, c'est arracher les fausses sources de confiance pour replanter une vraie foi en Dieu. Première mauvaise herbe que Jérémie arrache, c'est ces faux prophètes. Ceux qui disent ça va, quand en fait, ça va pas du tout. S'en remettre à ces faux prophètes pour s'occuper de notre sécheresse spirituelle, pour la guérir, c'est un petit peu comme si on était sur le Titanic après avoir heurté l'iceberg. Au lieu de chercher un canot de sauvetage, on engage une agence publicitaire. Les experts en communication, ils se tiennent sur le pont qui s'incline de manière de plus en plus dramatique et ils disent « c'est bon, on a la solution ». On va faire un rebranding. C'est plus un naufrage, on va appeler ça une aventure sous-marine. C'est fou, mais c'est exactement ce que font ces faux prophètes dans le passage. C'est les éternels optimistes du monde, au point d'être naïfs. Ça va, ça va. Dieu pardonnera. C'est son job. On aimerait peut-être penser qu'on est plus sophistiqué aujourd'hui. On ne croit plus trop aux faux prophètes. Mais si on allume la télé, on va sur Internet, on ouvre un journal, on est entouré d'experts, de politiciens, de gourous du développement personnel qui jouent ce rôle de prophète moderne. Ils nous assurent que si on fait confiance dans les progrès de l'humanité, à l'éducation, à la bonne politique économique, quelle qu'elle soit, alors la sécheresse prendra fin, l'humanité ira mieux, on sera sauvé. Mais c'est faux. Ça existe aussi plus près de nous. Quand on fait face à tous ces gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, on aimerait pouvoir leur dire « ça va ». Je me souviens de cette citation du pape François. Je cite « Cet homme n'était pas croyant, mais il avait un bon cœur. Pensez-vous que Dieu serait capable de le laisser loin de lui ? Non, Dieu était sûrement fier de lui. Ça va, ça va. » Et même dans l'Église, malheureusement, quand on commence à dire nous des choses que Dieu n'a jamais dites, que Dieu n'a jamais promises, on devient aussi des faux prophètes. Ce serait le cas, par exemple, de l'évangile du bien-être, peut-être plutôt du faux évangile du bien-être. Cette fausse idée, ce faux évangile qui dit que Dieu nous promet aujourd'hui la belle vie. Si on croit assez en Dieu, si on lui fait confiance, alors on trouvera un travail, il mettra fin à notre dépression, on trouvera un conjoint, peu importe. on dit des choses que Dieu n'a pas promises. Et en fait, en faisant ça, on ferme les yeux sur ce que Dieu est réellement en train de faire dans le monde. On dit « ça va, ça va », alors que ça ne va pas vraiment. La tragédie de ce monde moderne, et bien souvent en fait de l'Église moderne, c'est qu'on fait confiance parfois à ces faux prophètes, ces rassureurs, plutôt que d'affronter la réalité du jugement de Dieu. Jérémie nous place avec Israël sur le banc des accusés. Il nous dit que la sécheresse spirituelle, c'est une réalité à son époque, mais aussi dans le monde d'aujourd'hui. Et la solution, c'est pas de se voiler la face. Deuxièmement, les vrais prophètes non plus ne font pas l'affaire. On a dit les faux prophètes ne font pas l'affaire, les faux prophètes ne peuvent pas permettre le salut du peuple, ils ne vont pas leur permettre d'éviter l'exil. Mais bon, ce n'est pas vraiment une surprise, c'est dans le nom, faux prophète. Mais du coup, sûrement, un vrai prophète, un gars comme Jérémie, un gars bien, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qui va permettre au peuple d'échapper au jugement de Dieu. La réponse, et là c'est plus surprenant, c'est non. Jérémie, tu peux intercéder autant que tu veux, je n'épargnerai pas mon peuple. Pour voir ça, on va retourner dans le tableau qui donne la structure du texte avec ces deux cycles, premier cycle, deuxième cycle. À chaque fois, on a une annonce du jugement, une prière de la part de Jérémie et un refus de Dieu. Première annonce du jugement, il va y avoir une sécheresse qui va s'abattre sur le pays, on l'a déjà dit. Cet événement qui signifie le jugement de Dieu sur son peuple, mais ce n'est pas encore le jugement ultime, l'exil. C'est un peu le signe avant-coureur. Et puis quand on arrive dans le deuxième cycle, on voit que le jugement est monté d'un cran. La situation s'aggrave. Même si, comme on l'a vu la semaine dernière avec Pierre, quand Dieu juge son peuple, il le fait les larmes aux yeux, verset 17, quand même il y a un grand désastre qui arrive. Verset 18, si je vais dans la campagne autour de la ville, c'est-à-dire autour de Jérusalem, je vois des cadavres de ceux qui ont été tués par l'épée. Quand je vais à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de Jérusalem, les gens meurent de faim. C'est la description d'une ville assiégée, de Jérusalem assiégée, la guerre tout autour d'elle et la famine à l'intérieur. Et le résultat, ça nous est donné un petit peu plus loin avec un langage vraiment très fort. Chapitre 15, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel, celui qui est pour la mort, à la mort. Celui qui est pour l'épée, à l'épée. Celui qui est pour la famine, à la famine. Celui qui est pour la captivité, à la captivité. Je vais intervenir contre eux par quatre espèces de fléaux, oracle de l'Éternel. L'épée pour tuer, les chiens pour lacérer, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et détruire. C'est sombre. Ça peut être dur pour nous de savoir comment penser à ça. Oui, le texte nous dit « Dieu pleure quand il doit juger son peuple, mais il le fait quand même, puisqu'il est juste. » Quand Jésus-Christ reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, comme on le croit, il aura les larmes aux yeux au moment où le jugement tombera sur ceux qui n'ont pas cru en lui. Mais le jugement ne sera pas moins terrible. Celui qui est pour la mort, à la mort. Celui qui est pour l'épée, à l'épée. Celui qui est pour la famine, à la famine. Celui qui est pour la captivité, et la captivité. Et donc, face au jugement terrible qui attendait Israël lors de l'invasion babylonienne, face au jugement terrible en fait qui attend l'humanité tout entière, quelle réaction avoir ? Eh bien, en tout cas, ce que fait Jérémie, c'est d'intercéder pour le peuple, de prier pour le peuple. C'est un petit peu son job. Un prophète, c'est quelqu'un, on l'a dit, qui parle de Dieu au peuple, mais c'est aussi quelqu'un qui prie Dieu en faveur du peuple pour demander la grâce de Dieu. Et donc, Jérémie intercède pour Israël, il prie pour Israël une première fois, 14, versets 7 à 9, dans le premier cycle, et il dit ceci, « Si nos fautes nous accusent, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos inconstances sont nombreuses, nous avons péché contre toi, toi, l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse. » Pourquoi serais-tu comme un étranger de passage dans le pays, comme un voyageur qui dresse sa tente pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme déconcerté, comme un héros incapable de sauver? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous délaisse pas. C'est ce qu'on attend d'un prophète. C'est la prière de repentance qu'il fallait. Dieu, souviens-toi que ce peuple, il est le peuple qui porte ton nom, verset 9. Et donc, oui, nous, on a péché contre toi. Nos fautes nous accusent. Mais agis non pas puisque nous, on le mérite, mais à cause de la grandeur de ton nom. Verset 7. Seigneur, cesse d'être comme un étranger, un touriste dans notre pays. Verset 8. Puisque ce pays, c'est ton pays, en fait. Et ce peuple, c'est ton peuple. Alors sauve-nous. Il n'y a rien à redire sur cette prière, elle est très bien. Et qu'est-ce que Dieu répond à partir du verset 10 ? Oui, ils aiment vagabonder, ils ne restent pas en place. L'Éternel ne les agrée pas. Il se souvient maintenant de leurs fautes. Il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, ne prie pas en faveur de ce peuple pour son bien. S'ils jeûnent, je n'écouterai point leurs cris de détresse. S'ils offrent des holocaustes, des sacrifices et des offrandes, je ne les agréerai point, car je vais les achever par l'épée, par la famine et par la peste. Ce n'est pas la réponse qu'on attend. Ce n'est pas la réponse que Dieu est censé donner quand un prophète lui demande sa grâce. Ne prie pas en faveur de ce peuple. Dieu est en train de dire que c'est trop tard. Même l'intercession d'un vrai prophète comme Jérémie, ça ne va pas vous sauver maintenant. Et puis on arrive au deuxième cycle. De nouveau, il y a une prière de Jérémie, deuxième prière de Jérémie, chapitre 14, à partir du verset 19. « As-tu définitivement rejeté Juda ? Ton âme est-elle dégoûtée de Sion, Jérusalem ? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison ? Nous espérions la paix, mais il n'y a rien de bon. Un temps de guérison, mais voici l'alarme. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, n'outrage pas. Ne méprise pas le trône de ta gloire, c'est-à-dire le temple. Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les vaines idoles des nations, est-il qui fasse pleuvoir ? Ou est-ce le ciel qui donne les ondées ? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu ? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. » Cette prière de Jérémie, elle ressemble pas mal à la première. En fait, s'il y a une différence, c'est qu'elle est encore plus théologique. Il rappelle à Dieu qu'il a placé son temple à Jérusalem, qu'il a fait alliance avec ce peuple, qu'ils reconnaissent que l'Éternel est le Dieu, le seul Dieu, que les idoles des nations ne peuvent rien faire, mais ils espèrent en l'Éternel. Réponse de Dieu, 15, verset 1. « Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, mon âme ne serait pas avec ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. » Jérémie, arrête. Ça ne sert plus à rien d'intercéder en faveur de ce peuple. Même s'il y avait Moïse qui était là devant moi pour intercéder, je ne changerais pas d'avis. Même s'il y avait Samuel pour le faire, je ne l'écouterais pas. C'est trop tard. Moïse et Samuel, c'était deux autres prophètes qui ont vécu bien avant Jérémie. Et qu'est-ce qui est important à savoir sur eux ? C'est qu'eux aussi, ils ont vécu des temps comme ça. Des temps où Israël était rebelle contre Dieu, où Israël était sur le point de tomber sous le jugement de Dieu. Et ils ont prié. En Exode 32, Moïse prie Dieu, un peu comme Jérémie. Il dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple ?» Réponse, « L'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. » Dieu ne fait pas tomber le jugement sur Israël. Pareil pour Samuel, il crie à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel lui répondit. Samuel prie Dieu, Dieu accorde sa grâce. Et donc, quand nous on lit notre passage, quand Jérémie prie Dieu en faveur d'Israël, quand il revient même une deuxième fois pour intercéder, il ne fait pas une mauvaise chose. Sa prière montre des bonnes préoccupations. Il se préoccupe de la gloire de Dieu, de la grandeur de son nom. Il fait ce qu'un prophète est censé faire. Mais Dieu répond encore, « Non, Jérémie, c'est trop tard. » Même si les grands prophètes d'autrefois, Moïse et Samuel, étaient là devant moi pour demander ma grâce, ça ne suffirait pas. Ce peuple sera jugé, ce peuple ira en exil. Oui, un peu cette escalade entre le premier cycle et le deuxième cycle. On est passé de la sécheresse, le signe avant-coureur du jugement de Dieu, au grand jugement, l'exil. Puis on est passé de « Jérémie, n'intercède pas pour ce peuple » à « C'est trop tard, même si Moïse et Samuel étaient là, je ne changerai pas d'avis. C'est trop tard. » C'est un petit peu comme un match de rugby. En bon français, j'ai suivi le parcours de l'équipe de France qui est sortie victorieuse du tournoi Destination il y a quelques semaines. Et c'est comme quand le capitaine d'une équipe va voir l'arbitre pour plaider en faveur d'un joueur qui a commis une faute. La première fois, l'arbitre écoute, il est patient. La deuxième fois aussi. Mais au bout d'un moment, quand le capitaine revient encore et encore, l'arbitre dit « Stop, ça suffit !» et il sort le carton. C'est ce qui se passe ici, quand Jérémie revient plaider encore une deuxième fois. Dieu dit, stop, c'est trop tard. On se souvient, hein, le message de Jérémie, c'est arracher pour replanter. Il faut arracher les fausses sources de confiance pour que plus tard dans le livre, on arrive à une vraie foi en Dieu. Et bien ici, le peuple, et en fait même Jérémie, doit apprendre que les prophètes, l'intercession, tout ça, ça ne peut pas sauver le peuple. Il faut enlever cette fausse confiance-là pour qu'on arrive à une vraie confiance en Dieu. Et nous, qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous ? Est-ce que nous, on peut se trouver dans cette même situation où Dieu dit « Non, c'est trop tard ». On va revenir là-dessus dans quelques minutes, mais d'abord, on doit retenir que ça veut dire que notre salut ne peut pas passer par un prêtre, par un pasteur, par un ancien, par Marie, par les saints, peu importe. Le meilleur avocat au monde ne peut rien faire pour nous quand Dieu sait qu'on est coupable. J'ai discuté de ce texte cette semaine avec Steve, et il m'a raconté qu'une fois, après un culte à Slagers, quelqu'un s'est mis à genoux devant lui. « Père, pardonnez-moi car j'ai péché. » La bonne réponse, « Lève-toi, va plutôt voir Jésus. » En fait, si nous, on cherche notre assurance spirituelle dans quelqu'un qui est dans cette pièce, un pasteur, un ancien, qui que ce soit, on est en train de chercher au mauvais endroit. Mais donc, si les faux prophètes ne font pas l'affaire, et même le vrai prophète, Jérémie, ne fait pas l'affaire, si même Steve ne fait pas l'affaire, c'est qui le prophète qu'il nous faut ? La réponse, bien sûr, c'est Jésus. Mais voici pourquoi. Dans cette partie du livre de Jérémie, l'exil d'Israël s'est devenu inévitable. Il y a encore un espoir de salut, mais ce n'est plus le salut qui va éviter l'exil. Il n'y a pas de solution facile. C'est le salut qui va passer au travers de l'exil. L'intercession seule, sans que le jugement soit porté, ne peut plus sauver le peuple. Et c'est là que Jésus entre en scène. Voici comment, en général, on essaie de comprendre comment Jérémie s'applique à nous aujourd'hui. Voici comment il faut penser. Le peuple devait souffrir, il devait être déraciné, démoli, il devait passer sous le jugement de Dieu en exil pour ressortir de l'autre côté et vivre avec Dieu. Et Jésus a fait ce même parcours. Il est passé sous le jugement de Dieu, il est allé en exil, l'exil ultime, la mort à la croix, puis il est ressorti de l'autre côté, il est ressuscité. On fête ça la semaine prochaine à Pâques. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Bien, la Bible nous dit qu'il intercède pour nous. Il prie pour nous. Mais ce n'est pas comme Jérémie, ce n'est pas comme Moïse, ce n'est pas comme Samuel. Ce n'est pas l'intercession de quelqu'un qui prie que nous évitions le jugement. C'est l'intercession de quelqu'un qui a déjà porté lui-même le jugement, de quelqu'un qui est déjà parti en exil à notre place. Et donc, il le fait pour que nous, on évite le jugement, mais pas pour que le jugement soit évité. Il le fait puisque lui est passé par là. Et donc, c'est pour ça que grâce à la croix, grâce à la crucifixion de Jésus, on n'a pas besoin de craindre de nous retrouver dans la situation de Jérémie. Hébreux 7, verset 25 nous dit que Jésus peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Son intercession à lui ne sera jamais refusée, parce qu'elle est fondée sur l'œuvre accomplie de la croix. Pour résumer un peu tout ça, on peut penser à une entreprise qui est en train de faire faillite. Les faux prophètes, c'est des mauvais consultants financiers. Ils arrivent, ils disent « Vous inquiétez pas, le marché va rebondir ». Jérémie, c'est un bon consultant. Il arrive, il dit « Vous êtes en train de faire faillite, il va falloir vendre les meubles ». Mais Jésus, c'est simplement pas un consultant. C'est un milliardaire. Il entre dans la banque, il prend sur lui la dette, il déclare faillite à votre place. Et en fait, c'est ça le message de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour notre Église au quotidien ? On l'a déjà dit, ce dont on a besoin, ce n'est pas d'un prêtre, un intermédiaire entre nous et Dieu. Le seul intermédiaire entre nous et Dieu, c'est Jésus. Ce dont on a besoin, donc, c'est de se pousser les uns les autres à regarder vers lui. C'est le cœur de notre vie ensemble en tant qu'Église locale. Quand on se sent spirituellement sec, on n'a pas besoin que quelqu'un nous rappelle de manière un peu vague que Dieu est plus ou moins bon, il est gentil. Ce dont on a besoin, c'est d'un frère, d'une sœur qui s'assoit à côté de nous, qui ouvre la Bible avec nous et qui nous rappelle la réalité de la grâce de Dieu acquise à la croix. Pourquoi ? Puisque le ministère, ce n'est pas le rôle d'une personne. d'un petit groupe de personnes qui seraient les intermédiaires entre nous et Dieu. C'est le rôle de nous tous de nous encourager les uns les autres à faire un pas de plus vers Dieu en dépendant de cette grâce-là, la grâce qu'il a acquise à la croix. On a dit arracher pour replanter. Aujourd'hui, Jérémie, donc, il a arraché cette fausse confiance dans l'office prophétique. Ni les vrais prophètes, ni les faux prophètes ne peuvent sauver Israël ou ne peuvent nous sauver aujourd'hui. Seul Jésus, le prophète ultime, peut faire le travail. Pourquoi ? Puisqu'il n'a pas simplement prié qu'on échappe au jugement, mais il a subi le jugement à notre place. Et donc, est-ce que nous, on doit s'inquiéter qu'un jour, on se présente devant Dieu et on lui dise « pardon » et Dieu nous répond « non, c'est trop tard ». Ben, ça dépend comment on le fait. Si on pense qu'on peut se présenter devant Dieu, et comme il est bon, comme il est amour, comme il est gentil, alors il nous dira toujours « ok ». Non, là, il faudrait peut-être craindre que Dieu nous dise « non, c'est trop tard ». Même si Moïse, même si Samuel, même si Jérémie était là devant moi, je t'écouterai plus. Mais par contre, si on vient devant Dieu, on lui dit « Seigneur, tu as fait à ma place ce que moi je ne pouvais pas faire. Ton fils Jésus est mort pour moi. Ton fils a subi mon jugement à ma place. Et aujourd'hui, il intercède pour moi. » Alors là, Dieu ne dira jamais non. Parce qu'en fait, ce n'est pas à moi qu'il est en train de répondre. Ce n'est pas à moi qu'il dit oui ou non. C'est à son fils qu'il dit oui. Et il dira toujours oui à son fils bien-aimé en qui il prend plaisir. Et donc si vous êtes avec nous ce matin et vous ne connaissez pas Jésus, n'attendez plus. C'est un truc qu'on dit en tant que prédicateur. Mais oui, il peut être trop tard un jour. Peut-être qu'en sortant d'ici, vous allez vous prendre un bus et ce sera trop tard. Mais peut-être plus sérieusement, plus on dit non à Dieu, plus notre cœur s'endurcit, plus notre cœur se dessèche, plus ça devient trop tard. Mais dès aujourd'hui, on peut se tourner vers lui, lui dire qu'on se confie en lui, qu'on se confie en son fils, lui demander pardon. Si c'est votre situation, alors parlez-en après le culte. Venez m'en parler, parlez à la personne qui vous a invité, peut-être au culte ce matin, ou simplement à votre voisin à côté de vous. Et enfin, en tant que chrétien, en tant que croyant en Jésus-Christ, c'est une merveilleuse assurance, n'est-ce pas, de savoir que Dieu ne va jamais nous dire non. Jamais nous dire « non, là c'est trop, stop ». Puisqu'en fait, Dieu n'est pas en train de nous répondre. Dieu n'est pas en train de répondre à nos péchés. Même quand on retourne dans la même chose pour la énième fois, même quand on rechute de la même manière encore et encore. En réalité, Dieu répond, pas à nous, mais à son fils, à Jésus. « Oui, Jésus, mon fils, je pardonne. Je pardonne à Joshua, je pardonne à Alexandra, je pardonne Robert. Parce que ce n'est pas à lui, ce n'est pas à elle que je regarde. C'est à toi, mon fils, bien-aimé. » Prions. Seigneur, merci que ton fils, il est allé à la croix subir ton jugement à notre place. Puis, le troisième jour, il est ressuscité, il est monté au ciel, il s'est assis à ta droite, et aujourd'hui, il plaide pour nous. Merci, puisqu'on peut avoir confiance que grâce à lui, il ne sera jamais trop tard de nous tourner vers toi, jamais trop tard pour te demander pardon, jamais trop tard pour se confier en lui. Merci pour ça. Amen.